C'est vrai qu'ils font une bonne job. J'espère que vous portez tous bien ce matin. Est-ce que tout le monde va vraiment bien? Plus ou moins? Bien, que Dieu soit loué. Si tu ne vas pas bien, on va prier pour toi que Dieu te donne la santé. Et si tu es en santé, on prie que Dieu te conserve en santé aussi longtemps que possible pour faire son œuvre. Amen. Alors ce matin, nous continuons avec l'enseignement d'Éphésiens. Ça c'est face à face, ça. On a fini comme ça. Nous continuons avec l'enseignement sur Néhémie. Alors, Néhémie chapitre 9. Quels sont ceux qui ont lu cette semaine ce passage-là? Très peu de personnes l'ont lu. Merci pour vous qui avez lu. Ça a été dit qu'on doit lire chaque fois avant de tomber dans le texte pour mieux comprendre. Alors, on a vu la semaine dernière avec notre frère Stéphane qui nous a parlé réellement du chapitre 8. Ce qui est évident après le chapitre 8, c'est le chapitre 9. On n'a pas besoin d'être trop intelligent pour dire ça. Alors, donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a parlé de des tabernacles, la fête des tabernacles, la fête des tentes. Et il y a eu la récolte, les gens vont se réjouir et ils prennent le temps devant l'Éternel pour remercier Dieu pour tous ses bienfaits, pour sa bonté, pour sa fidélité dans leur vie. Ils font tout cela. Et le temple est fini, et je dis le temple, les murs de Jérusalem sont finis d'être bâtis. Alors, on pouvait supposer dire qu'il n'y a plus de job. On a fêté ce que la loi de Dieu demande. La seule chose qui reste, on plie nos bagages, on rentre à la maison, l'économie va commencer à reprendre, et il y aura la sécurité dans le pays. Les brigands et les bandits ne pourront pas rentrer et sortir comme ils veulent, parce que toutes les brèches qui existaient dans la maison de Dieu, à l'époque, sur les murailles, ont été fermées. Il n'y a plus de problème, on n'a pas à s'inquiéter, on peut dormir sur nos deux oreillers sans problème. Est-ce que c'est ça qui s'est passé? Mais ils auraient pu faire ça. Mais le peuple d'Israël a trouvé que non, cela n'est pas suffisant. Avec leur leader, ils ont réfléchi à une autre journée supplémentaire. Ils ont convoqué un jeûne et prière. Un jeûne et prière pour que le peuple puisse se confesser devant l'Éternel, remettre les choses en ordre. Depuis quelque temps, nous parlons réellement de la construction, de la reconstruction au Cap de la Madeleine. Nous savons que l'Assemblée a brûlé. La preuve est que je suis un rescapé de cela. Mais quand l'Assemblée a brûlé, on a dit qu'on travaille pour rebâtir. Nous avons prêché sur la reconstruction pendant plusieurs mois. Et le chapitre 1 de Néhémie au chapitre 7 nous parle de la reconstruction. Et le chapitre 8 au chapitre 13 va nous parler réellement de la restauration spirituelle. Et ce matin, mon but est de nous amener à parler de la restauration spirituelle. Amen. Parce que même si on n'a pas encore entrepris la construction physique, par la foi en Dieu, par la foi en chacun de vous, je crois que l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine, au 225 Lupien, va voir le jour à partir du mois de mai, ça va commencer à sortir de la terre. Amen. Est-ce que vous croyez à ça? Bien. Alors donc, par la foi, je crois à cela. Et c'est pourquoi j'entreprends ce matin-là avec mes frères enseignants d'enseigner sur le chapitre 8 et le chapitre 9 pour moi, pour la restauration spirituelle. Nous avons tous besoin d'être restaurés d'une certaine façon. Même si l'Assemblée du Cap sera bâtie, va être relevée, un nouveau bâtiment, mais ça prend aussi des cœurs neufs pour entrer dans ce bâtiment. Amen. Nous avons besoin de faire un ménage en nous. La rénovation en nous, le travail de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies, qui ont été blessés, qui ont connu aussi des brèches, qui ont besoin d'être reconstruits. Et c'est pourquoi ce matin, sans plus tarder, j'aimerais que nous ouvrons nos Bibles dans Néhémie chapitre 9. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de... Ok. Excusez. Ouais, c'est la vieillesse probablement. Alors donc, nous allons ouvrir nos Bibles dans Néhémie chapitre 9, s'il vous plaît. On va le lire à partir du verset 1. le 24e jour du même mois, c'est-à-dire dans le mois de septembre à octobre, c'était dans cette période-là qu'il y a eu réellement la fête des huttes. À partir de ce moment, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent, confessèrent leurs péchés et les iniquités de leur père. Lorsqu'ils furent placés, on lut le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Excusez. Devant l'Éternel, leur Dieu, on revient. Verset 4. Josué, Bani, Kadmiel, Shebania, Bouni, Serabia, Bani, Kenadi, montèrent sur l'estrade des Lévites. Ils crièrent à haute voix vers l'Éternel, leur Dieu. Et les Lévites, Josué, Kadmiel, Bani, Hachabnia, Sherebia, Hodija, Shebania et Pédagia dirent, « Levez-vous, bénissez l'Éternel votre Dieu, d'éternité en éternité, que l'on bénisse ton nom glorieux, qui est au-dessus de toute bénédiction et de toute louange. C'est toi, toi l'Éternel seul, c'est toi l'Éternel, toi seul qui as fait les cieux des cieux et toute leur armée, et toute la terre et tout ce qui est sur elle, toute la mer et tout ce qu'elle renferme. Tu donnes la vie à toute chose, et l'armée des cieux se prosterne devant toi. » Verset 7. Il dit, « C'est toi, l'Éternel Dieu, qui a choisi Abraham, qui l'a fait sortir d'Ur en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. Tu trouvas son cœur fidèle devant toi et tu fis alliance avec lui et tu promis de donner à sa postérité des pays, le pays des Cananéens, des Éthiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Jébusiens, des Guirgarsiens, et tu as tenu ta parole car tu es juste. Tu vis l'affliction de nos pères en Égypte et tu as entendu leurs cris vers la mer Rouge. Tu opéras des miracles, des prodiges contre Pharaon, contre tous ses serviteurs, contre tout le peuple de son pays, parce que tu savais avec quelle méchanceté ils avaient traité nos pères, et tu fis paraître ta gloire comme elle paraît aujourd'hui. Tu fendis la mer devant eux, et ils passèrent à sec au milieu de la mer, mais tu précipitas dans l'abîme comme une pierre au fond des eaux, ceux qui marchaient à leur poursuite. Tu les guidas le jour avec une colonne de nuée et la nuit avec une colonne de feu. Tu les éclairais dans le chemin qu'ils avaient à suivre. Tu descendis sur la montagne de Sinaï et tu parlas du haut des cieux et tu leur donnas des ordonnances justes, des lois de vérité, des préceptes et des commandements excellents. Verset 14. Tu leur fis connaître ton saint sabbat. Tu leur prescrivis par Moïse, ton serviteur, des commandements, des préceptes et une loi. Et finalement, tu leur donnas du haut des cieux du pain quand ils avaient faim et tu fis sortir de l'eau du rocher quand ils avaient soif. Et tu leur dis d'entrer en possession du pays que tu avais juré de leur donner. Jusque-là. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Alors, mon plan d'action, je ne le vois pas moi-même par ici, mais ce n'est pas grave, je peux me mettre comme ça, ça ne vous dérangerait pas? Bien. Voilà ce qu'on va voir tantôt. Si on a assez de temps, on va continuer pour ça. Sinon, on va s'arrêter en chemin. La préparation, la lecture de la parole de Dieu, la confession des péchés, et le regard sur le passé et conclusion. Je vais parler d'un réveil ce matin. Le réveil spirituel. Le réveil dans ta vie. Le réveil dans ma vie à moi. Nous avons tous besoin d'un réveil quelque part. Et Israël était conscient de cela. Après plusieurs années de souffrance et de douleur, alors ils ont dû prendre conscience à un moment donné qu'ils devraient s'asseoir pour voir qu'est-ce qui se passe en réalité. Qu'est-ce que j'ai appuyé? André, oui. C'est ça. On avait lu ça. Alors, ils ont dû s'asseoir pour prendre le temps pour réfléchir sur ce qu'ils avaient à faire. Ils se disent, nous sommes dans un malheur. Qu'est-ce qui nous est arrivé pour qu'on soit dans cet état? Qu'est-ce qui a pu nous arriver? Qu'est-ce que nous avons oublié? Qu'est-ce que nous n'avons pas fait pour que nous soyons dans cet état où nos ennemis dominent sur nous? Où nos ennemis prennent tout notre bien? Où nos ennemis abusent de nous? Les murailles sont construites, oui, c'est vrai. Mais encore, n'oubliez pas que le gouvernement de Assyrie continue de régner réellement, Perse continue de régner réellement sur Israël. Ils ne sont pas encore libérés de la main de ces gens-là. Même si Néhémie est un homme de Dieu qui a eu la faveur du roi, Israël est toujours en territoire occupé sous la domination de leur ennemi. Alors, ils vont se souvenir. Qu'est-ce qu'ils font? Ce jour-là, le jeune, il décide de retourner vers leur Dieu. Quand nous regardons dans le verset 1, la préparation, qu'est-ce qu'ils ont fait? Il n'y a pas de réveil sans préparation. Il n'y a pas de réveil collectif comme ça. Généralement, un réveil commence par des individus et ça enflamme au fur et à mesure. Et Néhémie a été un des moteurs de ce réveil. Mais quand ils arrivent, il faut se préparer pour ce réveil. Qu'est-ce qu'ils font? À partir du verset 1, quand nous regardons, on dit au 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent. Comment? Comment, premièrement? Ils étaient... Ah, André, vous avez faim, hein? Ils étaient revêtus de quoi? C'est ça. Ils étaient revêtus de sacs. Imaginez-vous que ce matin, je venais habillé de sacs, avec des sacs de cendres sur moi, la poussière sur moi. Noir comme je suis, je pense que vous ne me verrez plus. Alors, imaginez-vous, et qu'on vient dans la maison de Dieu dans cet état-là. Et les gens se rassemblèrent. Ils viennent devant l'Éternel. Ils se préparent pour avoir un bon cœur. Une bonne attitude de cœur. Porter le sac, c'est quoi le sac? Le sac est un symbole de deuil. Le sac est un symbole de misère en soi. À l'intérieur de nous-mêmes, on souffre. On veut exprimer une humiliation à l'intérieur de nous, de notre par rapport à notre état de péché. Et les gens, ils viennent avec un sac et de la poussière sur leur dos. Pour s'humilier devant leur Dieu. Amen. C'est ça le premier point qu'il fait, la première action qu'il pose. Ils viennent avec des sacs et de la cendre, de la poussière devant leur Dieu. Excusez, je prends mes feuilles, range mes feuilles comme il faut. Alors, la deuxième chose qu'ils font après, c'est quoi? Non seulement ils viennent, quand on voit le passage qu'on dit, ils sont venus avec des sacs et de la poussière, mais non seulement ça, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Ils se préparent pour un jeûne. Ils se préparent pour un jeûne. Tout cela dans le but d'obtenir un réveil. Tout cela dans le but de mettre leur vie spirituelle en ordre avec Dieu. Alors, ils se préparent pour un réveil, alors ils se préparent pour le jeûne. C'est ce que l'Écriture nous dit. Ils sont revêtus de sacs, première partie. Deuxièmement, qu'est-ce qu'ils font? Alors, ils vont se séparer de tout péché. Ils vont se séparer. Au verset 2, on nous dit, « Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et les péchés et les iniquités de leurs pères. » Non seulement ils ont porté le sac pour se préparer pour le jeûne, mais aussi, avant de rentrer dans le jeûne pleinement, qu'est-ce qu'ils font? Ils font le ménage en bon québécois. Ménage où? Dans leur vie. Ménage où? Pas dans la vie du voisin. Pas dans la vie de son patron au travail, mais dans la vie à soi-même. Ils avaient à faire quoi? Ils avaient à se séparer de tous les étrangers. Ce n'est pas des immigrants, comme on le dit aujourd'hui. Et ceux-là, c'était des personnes que Dieu avait chassées devant le peuple, avec lequel Israël ne devait pas être en relation avec ces gens-là. Ils ne devaient pas tisser d'alliance. Ils ne devaient pas marier leur fille à leur fille, ni leur fils à leur fils. Leur fils à leur fille, ni leur fille à leur fils. Ils ne devaient pas faire cela. Mais malheureusement, Israël n'a pas écouté la voix de l'Éternel. Ils ont fait ça. 13 ans plus tôt, Esdras vient pour essayer de rétablir les choses dans le pays. Alors, il demande aux gens de se séparer des femmes qu'ils avaient mariées, qui n'étaient pas israélites, qui n'étaient pas israélites de souche, qui ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. Ils ont fait le ménage. Mais tout le ménage n'était pas terminé. Néhémie va devoir continuer le travail. Ce matin, nous voulons tous un réveil au Cap de la Madeleine. Nous voulons tous un réveil dans nos vies, à nous. Nous voulons un réveil réellement dans cette ville de Trois-Rivières qui va être enflammée à partir de chacun de nous. Mais quels sont les compromis que tu as faits? Quels sont les compromis que tu as faits avec le péché? Quels sont les compromis que tu fais avec le monde? Quels sont les compromis que tu fais avec la parole de Dieu dans ta vie? Quels sont les compromis que j'ai fait moi-même personnellement dans ma vie? Alors si nous voulons un réveil dans notre vie, si nous voulons un réveil au Cap de la Madeleine, si nous voulons un réveil à l'Assemblée chrétienne du Cap, nous devons faire le ménage. Amen. Nous devons faire le ménage dans notre vie. Je ne sais pas les compromis que tu as faits. Mais eux, leur compromis, c'était de marier des femmes étrangères qui ne faisaient pas partie du peuple de Dieu. Et ces compromis peuvent être aussi quoi aujourd'hui dans ta vie? Tu cours après une fille païenne qui ne fait pas partie du peuple de Dieu? Un garçon, il est beau, oui, il est cute, mais il est païen, il ne connaît pas le Seigneur. Ouais, mais le Seigneur va le sauver. Mais est-ce que Dieu t'a promis ça? Non. Il t'a dit, tu veux un homme? Regarde parmi mes fils. Tu veux une femme? Regarde parmi mes enfants, mes filles. Pourquoi? Parce que si tu maries une païenne qui ne fait pas partie du peuple de Dieu, ça va abaisser, ça va affaiblir ta foi chrétienne. Le monde affaiblit le croyant dans sa marche avec Dieu. Alors, Israël doit faire le ménage. Et le ménage qu'ils font, c'est ça. Non seulement ils portent le deuil pour exprimer leur état intérieur face à leur péché, alors ils prennent les grands moyens. Ils coupent avec le monde. Ils coupent avec les compromis au travail. Ils coupent avec les compromis dans le sein de leur ville. Ils coupent avec tout. Tu vois, c'est drastique. Je vous demande si tu devrais être dans les souliers de ces gens-là. On dit, ta femme là, tu as eu 3 enfants avec. Les enfants sont encore petits. Mais on dit, tu dois te séparer avec elle, avec les enfants que vous avez eu ensemble. Elle doit partir parce qu'elle ne fait pas partie de la ligne de Dieu. Comment tu feras? Comment tu vas faire? Des fois, on a de la misère à respecter une simple discipline que l'autorité établit. Mais imaginez-vous si tu dois couper des choses comme ça. On va dire, mais Dieu était sans cœur, mais Dieu, ce n'est pas correct. Alors nous sommes plus intelligents et plus sages que Dieu. Lui, il sait pourquoi. Ce matin, que Dieu nous aide à enlever les choses qui font obstacle dans notre vie et qui peuvent nuire au réveil que nous voudrons vivre au Cap de la Madeleine. La troisième des choses, deuxième grand point, il n'y a pas de réveil, comme on le dit, sans préparation, mais il n'y a pas de réveil sans la lecture de la parole de Dieu. Dans Josué 1, 8, qu'est-ce que Dieu dit à Josué? Après la mort de Moïse, il dit, Moïse, mon serviteur est mort, Josué, lève-toi, c'est toi qui vas mener ce peuple dans le pays que j'ai promis de donner à leur père. C'est pourquoi que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Et c'est ce que l'Éternel dit à Josué. La place de la parole de Dieu. Et quand nous regardons dans le verset 2, qu'est-ce qu'ils font? Ici, la parole de Dieu a une place importante. Il dit ceux qui s'étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent devant l'Éternel et confessèrent leurs péchés. Et je suis au verset 2, excusez-moi. C'est au verset 3 que je veux être. Verset 3. Lorsqu'ils furent placés, on lut le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart de la journée. 30 minutes, on dit à Adama, ferme la bouche et puis nous, on s'en va chez nous. Mais eux, un quart de la journée, égale combien d'heures? Un quart de la journée. Hein? Un quart de la journée. Ça fait 6 heures aujourd'hui. Si on compte 24 heures. Mais eux, là, ils comptaient par 12, là. Donc, ça fait 3 heures de temps qu'ils étaient en train d'écouter. Et 3 autres heures encore, ils ont confessé leur péché. Ça fait 6 heures de temps. Si je vous demandais de rester sage comme des images présentement et de m'écouter pendant 3 heures de temps à confesser vos péchés, est-ce que vous accepterez ça? Ce serait facile pour vous? Non. Dans notre temps aujourd'hui, quand quelqu'un prêche, quand le prédicateur est en train de prêcher, on regarde, il a passé de 5 minutes, les gars, ils te regardent, pendant qu'il tient son attention, il ferme la Bible, il dit, ferme ta bouche, ton temps est fini. Vas-y à la maison, on veut partir. J'en ai vu ça plusieurs fois, dans d'autres endroits. Il regarde le prédicateur, là, puis tu le regardes, là, il ferme la Bible. Ça veut dire que ton temps est fini. Tu n'as plus mon attention. Mais eux, là, ils ont écouté la parole de Dieu pendant 3 heures de temps. 3 heures de temps, et cela va susciter en eux le désir. Ça va alimenter leur bonne volonté de confesser leurs péchés et de prendre du temps dans la présence de Dieu. La lecture de la parole de Dieu est un moteur pour un réveil. Il n'y a pas de réveil tant qu'on ne s'accroche pas de la parole de Dieu. Et c'est pourquoi Dieu dit que cette parole-là, on doit la lire tous les jours. Elle doit être notre fondement. Si on nous enlève la parole de Dieu, l'église de Christ n'existe plus. Il n'y a plus de fondement pour nous. Et ces gens-là, ils ont lu la parole de Dieu pendant un quart d'heure. Dans ce temps-là, en ce moment, cet événement de jeûne et prière, en plus qu'ils avaient faim et soif, ils avaient encore l'attention d'écouter la parole de Dieu pendant 3 heures. Moi, quand j'ai faim, le ministre de l'Intérieur, il réclame beaucoup, mes oreilles n'entendent plus. Quelle est la place que la parole de Dieu occupe dans ta vie ce matin? Quel impact la parole de Dieu a sur ta vie et sur ma vie? Comment est-ce que tu traites la parole de Dieu? Est-ce que quand tu lis la parole de Dieu, est-ce que ça suscite en toi une bonne volonté d'obéir à Dieu? Ou bien tu dis, oh, ça c'est trop compliqué ça, moi, je ne veux rien savoir de ça. Quelle place la parole de Dieu occupe dans ton quotidien? Dans ta vie de famille comme leader? Comme mari? Comme femme? Comme responsable de ministère de l'école de dimanche? Comme prédicateur, comme enseignant, comme ancien, comme ouvrier, quelle place la parole de Dieu occupe-t-elle dans ta vie? Si nous voulons connaître un réveil, frères et sœurs, nous ne pouvons pas négliger ce message. C'est le message des messages, il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Et c'est pourquoi Paul, Pierre pouvait dire, « Seigneur, à qui d'autre irions-nous? Car tu as les paroles de la vie éternelle. Et cette vie éternelle, la parole de la vie éternelle, nous l'avons. Nous ne pouvons pas aller ailleurs d'autre. C'est ça que l'Église a besoin d'avancer avec ce livre-là. C'est avec ce livre-là que nous allons pouvoir bâtir l'Assemblée chrétienne du Cap. C'est avec ce livre-là que nous allons bâtir nos vies à nous. C'est avec ce livre-là que des gens vont nous voir vivre ce que la parole de Dieu dit. Alors, ils vont venir, on va dire, leur Dieu est le véritable Dieu. Amen. Que le Seigneur nous aide. Pour avoir un réveil, il ne suffit pas seulement de se préparer, de lire la parole de Dieu, mais il y a aussi un autre aspect à tenir en compte, la confession de nos péchés. Si les enfants d'Israël avaient fait tout cela et qu'ils n'avaient pas fait les confessions de péché, ils demeureraient encore dans leur état. La lecture de la parole de Dieu Si elle n'est pas accompagnée par une obéissance, il n'y a pas d'effet. Les enfants d'Israël, ils lirent la parole. Et qu'est-ce qu'ils font? Quand nous regardons au verset 3, on nous dit que lorsqu'ils furent placés, on lut le livre de la loi de l'Éternel, leur Dieu, pendant un quart d'heure de la journée, et pendant l'autre quart, ils confessèrent leurs péchés et se prosternèrent devant l'Éternel, leur Dieu. Non seulement ils ont pris un quart d'heure pour lire la parole de Dieu, ils ont pris un autre quart d'heure pour confesser leurs péchés. Est-ce que c'est leurs péchés seulement qu'ils ont confessé? Ils ont confessé les péchés de qui d'autre? De leur père. Moi, je vous demande, depuis que vous êtes devenu chrétien, un jour, il t'est arrivé que tu t'es assis pour dire, je vais réfléchir combien de péchés mon papa a fait, puis je vais demander pardon pour ça. As-tu déjà fait ça? Avez-vous déjà fait ça? Quels sont ceux qui ont fait ça déjà? Levez vos mains, je vais voir. C'est bien. Ceux qui n'ont pas fait, peut-être qu'ils n'ont pas pensé à ça. Ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas spirituels. Peut-être qu'ils n'ont pas pensé à ça. Mais Israël a dû faire ça. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu nous dit dans Genèse et dans Exode, il dit, Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à quelle génération? Et il bénit jusqu'à 1000 générations. Mais Israël comprenait que leur souffrance, leur état dans lequel ils se trouvaient présentement, était dû à leur manque d'obéissance à Dieu. Et qu'ils avaient péché contre Dieu, ils devaient remettre leur vie en ordre. Le croyant qui pêche ne peut pas progresser. Si tu demeures dans le péché, tu ne peux pas avancer. Et l'Écriture nous dit, dans Proverbe 28, 13, il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Amen. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Y a-t-il quelqu'un ici qui ne veut pas prospérer dans la vie? Qu'il lève la main, on va prier pour lui. Pas pour qu'il ne prospère pas, pour qu'il prospère parce que ce serait un problème pour lui parce qu'il est mentalement malade. On veut tous prospérer dans notre vie. Nous passons des heures et des heures à travailler. Certains travaillent 80 heures. Pourquoi? Parce qu'ils veulent prospérer. Mais la Bible dit la prospérité et tout cela spirituel commence d'abord par la confession des péchés. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais dans 1 Jean 1,9, il dit, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner, mais aussi pour nous purifier de toute iniquité. Israël comprend ça. Ils vont confesser leurs péchés, ils vont obtenir le pardon de leurs péchés. Amen. Ce matin, je ne sais pas quel est ton état de péché. Quelle que soit la grandeur de ton péché, la grosseur de ton péché, la profondeur de ton péché, la largeur de ton péché. Je veux que tu saches ce matin que le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Amen. Alors, il y a de l'espoir pour toi. Dieu est prêt à te pardonner à condition que tu reconnaisses tes péchés, à condition que tu les confesses. Ça voudrait dire quoi? Avouer, dire, reconnaître que je suis coupable et accepter la sentence de Dieu et prendre les moyens de Dieu pour remédier à pour remédier à cela et trouver une solution. Amen. C'est ça que Dieu nous demande. Si je reconnais et je l'avoue, et je dis la même chose que Dieu concernant mon péché à moi-même, alors Dieu me pardonne. Il me garantit le succès. Réveil spirituel, il n'y en a pas de réveil spirituel sans un engagement. Il n'y a pas de réveil spirituel sans un engagement. Et ces choses-là sont importantes. Se préparer pour le réveil, la parole de Dieu pour le réveil. Réellement, qu'il y ait la confession, un engagement. Mais cela nécessite un regard sur le passé. C'est pourquoi j'ai pris ce mot, le regard sur le passé. Les gens nous disent, pour ne pas répéter l'histoire, il faut... On dirait personne ne m'écoute, hein? Vous êtes tanné de m'écouter? Pour ne pas répéter l'histoire, les fautes, il faut lire l'histoire. Ou pour ne pas répéter l'histoire, il faut connaître l'histoire. Si tu ne connais pas l'histoire, tu vas répéter l'histoire. pourquoi Israël avait besoin de connaître l'histoire. À partir du verset 5, on va voir que les Lévites, les leaders, les responsables vont inviter le peuple à rentrer dans l'adoration, dans la louange. Ils vont rappeler à Israël ce que Dieu a fait pour eux. Et reconnaître l'histoire, ça c'est à deux niveaux. Dans le verset, dans les premiers versets que je viens de dire, de 1 à 5 à 15 là, que moi je suis en train de lire et que je traite présentement, ça c'est la première partie de regarder en arrière, de regarder, d'avoir un regard sur le passé. La deuxième partie, Trevor viendra nous enseigner sur cela, ça c'est la confession des péchés du peuple même. Le peuple se repent totalement. Ici, on donne les grandes lignes, mais de l'autre côté, vous allez voir les détails. Mais qu'est-ce que Dieu fait? Et qu'est-ce que le peuple de Dieu fait? Avec les leaders font avec le peuple. On peut le regarder ensemble. 1. Il parle de quoi? La grandeur de Dieu. Est-ce que c'est ça? La grandeur de Dieu, le Créateur. Le Dieu créateur, ces huit éléments qui attirent notre attention, il est le Dieu créateur. Au verset 6, c'est ce qu'il nous dit. Un volontaire peut le lire pour nous, s'il vous plaît. Amen. Israël va regarder que Dieu est un Dieu grand et qui a créé toutes choses. Il est au-dessus de tous les dieux, il est au-dessus de toute louange. Il est l'auteur de la création. Tout ce qui vit sur la terre et sous la terre et au-dessus des cieux appartient à Dieu. Ça voudrait dire que tu appartiens à et j'appartiens à. Je suis la propriété privée de Dieu. Et tu es la propriété privée de Dieu. Que tu le veuilles ou non, tu es la propriété privée de Dieu. Parce que c'est lui qui t'a créé. Il t'a donné la vie. Donc, il a l'autorité sur toi à tous les niveaux. Est-ce que je reconnais que Dieu a l'autorité sur moi? Est-ce que j'accepte l'autorité de Dieu sur ma vie? Est-ce que je lui rends l'honneur et la gloire qu'un créateur mérite? La plupart des grands personne qui aime le Apple, il se met à genoux devant Steve Jobs, dans une certaine façon, parce qu'il a révolutionné la technologie avec iPad, avec les téléphones intelligents. On dit qu'il est le créateur de ces choses-là. Mais nous, nous avons un Dieu qui nous a créés, qui est plus puissant que ces choses-là. Est-ce que nous nous donnons ce qu'il mérite? Israël va voir non seulement cela, mais ils vont voir aussi, en réalité, l'élection. Et dans ça, on dit, ils font allusion à Abraham, dans le verset 7. Il dit, c'est toi, l'Éternel, qui as choisi Abraham et qui l'a fait sortir du pays dur en Chaldée et qui lui a donné le nom d'Abraham. Abraham, Abraham. Quand je dis cela, Abraham massicote les gens, les jeunes rient, ils disent, pourquoi tu l'appelles Abraham? Mais c'est ça, le père d'une multitude de nations. Abraham. Dieu a promis, il a choisi l'élection de Dieu, le choix de Dieu. Il choisit Abraham pour lui donner un avenir meilleur. Il choisit Abraham, Abraham obéit et puis il va aller dans le plan de Dieu. Et Dieu dit, je vais faire de toi une nation et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Quand Dieu regardait Abraham, il ne voyait pas seulement Isaac, mais il voyait Jacob, il voyait les 12 tribus d'Israël, il voyait David, il voyait le Messie qui vient. Il fait la promesse. Et cela va s'accomplir comme il a dit. Oui, évidemment, Abraham n'a pas vu tous les détails, mais Abraham a vu les prémices de la promesse. Il a vu Isaac. Il a vu Isaac. Et tout a découlé. La promesse s'est accomplie. Et dans cette alliance-là, dans le verset 8, toujours, quand on va au verset 8, on nous parle que Dieu est un Dieu d'alliance. Sa fidélité dans l'alliance. Il a fait l'alliance avec Abraham et il marche dans cette alliance-là. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je vais donner des nations, une nation à ton peuple. Les pays des Cananéens seront à tes enfants. Et c'est ce que Dieu a fait dans l'alliance avec Abraham. Oh. Et on continue, et il est un Dieu de compassion et qui rachète avec des prodiges. Dans le verset 9 à 10, qu'est-ce qu'il fait? Et les enfants d'Israël lisent cela. Il dit, tu opéras des miracles, des prodiges contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout le peuple de son pays. Parce que tu savais avec quelle méchanceté il avait traité nos pères et tu fis paraître ta gloire comme elle apparaît aujourd'hui. C'est ce que Dieu dit. Ils disent. Dieu est un Dieu réellement puissant, de compassion, de rachat, de miracle. Quand il a vu la souffrance d'Israël en Égypte, Dieu étant un Dieu de compassion, son cœur n'a pas pu résister. Il est allé à leur secours. Il les a secourus. Il a pourvu à leurs besoins. Il a fait des miracles. Non seulement il a secouru Israël, mais il a aussi vengé Israël en anéantissant Pharaon et tout son peuple. Ce matin, je ne sais pas quel genre d'oppression tu vis, quel genre de difficulté tu traverses, quel genre de souffrance que tu vis dans ta famille, dans ton travail, dans ton cœur, dans ton corps, autour de toi. Je ne sais pas, mais Dieu le sait. C'est ce qu'on a dit, il a entendu, il a su comment ils ont maltraité le peuple d'Israël. Et Dieu est venu à leur secours. Je veux que tu saches que le Dieu de compassion est ton Dieu ce matin. Il va te donner de la compassion. Il va te secourir. Il va pourvoir à tes besoins. Parce que c'est ce qu'il est. Il ne peut pas être autrement que ça. Tu veux te venger? Ne te venge pas de tes ennemis. Laisse cela à Dieu. Il va s'en occuper. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Laisse tes ennemis. Dieu va s'en occuper. Toi, occupe-toi des choses de Dieu. Amen. Occupons-nous des choses de Dieu. Et vous allez voir ce que Dieu va faire dans votre vie, dans ma vie et pour l'Assemblée chrétienne du Cap de la Madeleine. Il a fait des miracles. On va en dernier point, je ne pourrai pas faire tous les 8 points parce que mon temps est quasiment terminé. Il me reste 2 minutes. Alors, donc, nous voyons ici dans la suite. Je vais passer ça rapidement pour que vous voyez. Ici, nous voyons la délivrance que Dieu donne. Il rachète. Dieu t'a délivré. Il est un Dieu puissant qui délivre. Et il est aussi un Dieu qui conduit. Il donne une orientation. Par sa présence, il a rassuré Israël. Dans le désert, Dieu a été avec eux. Comment? Par la colonne. Dans le jour et la nuit par la colonne de feu. Il les a dirigés, il les a conduits sur le chemin qu'ils devaient prendre. Si nous voulons avancer, si nous voulons avoir du réveil dans notre vie, nous devons permettre à l'Éternel de nous conduire sur le chemin que lui a tracé pour nous. Nous devons regarder le symbole de Dieu, les signes que Dieu met devant nous pour nous diriger par sa parole. Acceptons d'être dirigés par la parole de Dieu. Acceptons de faire les choses selon le plan de Dieu et de marcher dans la direction que Dieu nous donne. Et Jésus-Christ dit que celui qui me suit ne sera jamais confondu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors il peut nous conduire. Et il dit, nul ne vient au Père autrement que par moi. Alors si nous avons accepté Christ pour aller au Père, pourquoi nous ne laissons pas ce même Christ par son esprit nous diriger dans ses plans et dans ses objectifs pour atteindre les plans de Dieu? Dieu sait ce que tu as besoin. Il sait ce que tu as peur. Mais il ne va pas t'envoyer là où tu as peur, il va t'envoyer là où il peut te donner toute la sécurité que tu as besoin. Il a conduit Israël, il les a dirigés. Laisse Dieu conduire ta vie, tes plans, tes projets. Ton ministère, ton appel, ta vie de famille, ta vie de couple, laisse Dieu diriger. Et quand nous venons, il a fait la révélation, le livre qu'il a donné. Mais dans tout cela, dans toute cette histoire, dans tout ce regard sur le passé, qu'est-ce que cela a provoqué chez Israël? Qu'est-ce que cela a provoqué dans les Israéliens? Cela a provoqué la confiance. Ce Dieu-là était bon pour nous. Ce Dieu-là nous a pourvu. Voilà ce qu'il a fait pour nos ancêtres. Voilà ce qu'il a fait pour nous. Voilà ce qu'il continue de faire encore aujourd'hui pour nous. Alors la confiance, ce Dieu fidèle, a montré à Israël que lui, il est un Dieu fidèle, non seulement qui respecte l'alliance, mais aussi qui tient compte de tout ce qu'il a dit dans sa parole, et il va le respecter. Dans le verset 33, on dit, tu es un Dieu fidèle, tu es juste, et tu as fait tout ce qui nous est arrivé était correct. Parce que toi, tu es un Dieu juste et fidèle. L'Éternel est fidèle. Fidèle dans ses promesses, mais fidèle aussi dans ses jugements, mais fidèle dans son alliance. Il va pourvoir, il va nous soutenir. Il va faire tout cela. C'est un Dieu providentiel. Il a pourvu. Non seulement il a sorti Israël de l'Égypte, il leur a donné une nation, une terre. Il a veillé à ce qu'il soit une nation. Maintenant que nous savons que nous avons un Dieu qui est fidèle, que notre Dieu est fidèle, qu'est-ce que cette fidélité de Dieu provoque chez toi? Le fait que tu sais que Dieu est fidèle, est-ce que ça te donne-tu la force, le courage de lui faire confiance? De marcher dans ses traces, de le laisser te diriger, te conduire, même dans des situations difficiles que tu ne comprends pas, que tu aimerais prendre le contrôle toi-même. Laisses-tu Dieu te diriger? Alors, voilà ce que je vous quitte avec ça. Quelqu'un peut le lire pour moi ici, s'il vous plaît? Un volontaire, on va prier pour finir ça. Tu peux le lire fort? Je n'ai pas entendu là, moi je suis dur d'oreille.
Faisons-lui confiance et engageons-le fidèlement avec intégrité.
Amen. Faisons confiance parce que Dieu nous a montré que lui il est fidèle. Alors on peut le faire confiance. Engageons-nous, servons-le avec fidélité et intégrité. Pas à peu près. Pas en reculant. Fonçons dans l'œuvre de Dieu. Comme on dit en bon québécois, il faut mordre dans la vie. Moi je dis, mords en Dieu. Amen. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour ce temps que tu nous as donné. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Seigneur, nous prions pour un réveil pour le Cap de la Madeleine. Mais nous savons que ce réveil ne peut pas arriver si nous ne mettons pas de l'ordre dans notre vie à nous-mêmes. Alors Seigneur, aide-nous à mettre de l'ordre dans notre vie, à être une église qui se sanctifie pour toi, une église qui est disposée, qui se lèvera pour que tu travailles au travers d'elle, une église qui va être un instrument entre tes mains pour que des hommes et des femmes parviennent à la connaissance de la vérité. Nous voulons demeurer fidèles et attachés à toi. Là où nous sommes tombés, nous te demandons pardon. Pardonne-nous nos fautes, relève-nous notre Dieu. Aie pitié de nous, papa. C'est au nom de Jésus-Christ que nous t'avons prié. Amen.